France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Quand je passe à côté d'une terrasse de café où éclatent des rires de jeunes gens ou de jeunes adultes, je dois dire que c'est un poignard dans le cœur à chaque fois.
Les gens pensaient, m'ont souvent dit, mais tu verras avec le temps, tu t'en remettras, mais c'est absolument faux, parce que plus le temps passe, plus le temps qui me sépare de ma fille est important. Et ça, c'est de plus en plus difficile à vivre.
C'est pas la colère qui a été mon sentiment dominant, ça a été le sentiment de l'absurde de ce massacre. Et tout de suite, la volonté de comprendre comment on pouvait éviter que ça se reproduise.
Trois explosions à proximité du Stade de France à Saint-Denis, une autre dans un bar très fréquenté du 11e arrondissement, plusieurs restaurants et cafés mitraillés dans la capitale, et puis l'interminable attaque du Bataclan. Dans la soirée du 13 novembre 2015, ces informations sont relayées par les smartphones, la radio ou la télévision. Comme tout le monde, Philippe et Chantal, Georges, Patrick et Dominique sont saisis de stupeur et d'effroi. Mais ce sont aussi des parents qui s'inquiètent, et ils ont raison. Cette nuit-là, ils entrent dans un tunnel sans fin. En 3 ans de deuil, quel chemin ces parents dévastés ont-ils parcouru? Ont-ils trouvé l'aide nécessaire pour se relever? Se sentent-ils suffisamment accompagnés, reconnus? Qu'est-ce qui les fait vivre ou survivre aujourd'hui? Les familles du 13 novembre, comment vivre avec l'absence? C'est un reportage signé Antoine Marette. Dans Grand Reportage, nous recevons aujourd'hui Guillaume Denoy de Saint-Marc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Nous allons écouter ensemble le reportage d'Antoine Marette et puis vous réagirez ensuite. Antoine, ces attentats de Paris et Saint-Denis ont fait 130 morts, plus de 400 blessés et des milliers de personnes ont été directement ou indirectement exposées à ces événements et traumatisés. Pour ce magazine de la rédaction, c'est aux familles endeuillées que vous vous êtes intéressé.
Oui, 130 victimes et autant de familles dévastées aux terrasses du Petit Cambodge, du Carillon, de la Bonne Bière, du Casa Nostra, de la Belle Équipe, du Comptoir Voltaire. Il y avait beaucoup de monde en cette soirée étonnamment douce pour un mois de novembre. Beaucoup de monde également venu au Bataclan pour applaudir le groupe de rock Eagles of Death Metal, des passionnés de musique souvent très jeunes, sans oublier ces explosions près du Stade de France qui ont fait un mort. La perte d'un proche est une expérience à la fois commune et dramatique, mais quand elle se produit dans un contexte violent, celui d'un attentat, la blessure du choc s'ajoute à celle du deuil, le choc d'une annonce brutale, le choc d'une mort qui ne respecte pas l'ordre des générations, le choc des images, des attaques et parfois d'un corps mutilé. La mémoire collective qui s'estompe petit à petit et laisse la place à une addition de chagrins individuels, beaucoup de chagrins et parfois de la colère, car ces assassinats de masse ont été commis au nom d'une idéologie, l'islamisme radical.
On revient donc 3 ans en arrière, au soir du 13 novembre 2015.
Jamais scène de carnage aussi effroyable en plein Paris.
Tir à la Kalachnikov, prise d'otages de masse, attentat suicide coordonné, au moins
et simultané, conçu pour causer le plus grand nombre de victimes dans des lieux emblématiques de la vie parisienne. Le
Stade de France, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
Philippe Duperron, je suis le père de Thomas Duperron, donc, qui est décédé le 13 novembre 2015 au Bataclan. Et je suis aussi le président de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité, association des victimes du 13 novembre. Eh bien, le 13 novembre, j'étais personnellement en réunion avec des amis. Nous n'avions pas de moyens d'information, sauf les smartphones des uns et des autres. Et nous avons appris au cours de la soirée qu'un attentat avait eu lieu au Bataclan. Et au moment où nous l'apprenions, il était question de quelques morts nombreux, mais en tout cas, on était très loin des 130 qui se sont avérés ensuite. Je suis rentré chez moi, j'avais pas d'autres informations. Mon épouse dormait, elle n'avait pas regardé la télévision, donc elle n'était pas alarmée particulièrement. Et au cours de la nuit, nous avons notre fils, notre deuxième garçon qui nous a appelé pour nous informer que Thomas était au Bataclan ce soir-là et qu'il n'avait pas de nouvelles de lui et qu'il le cherchait, mais essayait de nous rassurer à ce moment-là. Ensuite, nous avons pris la route pour Paris pour nous mettre en quête de Thomas. Ce que nous avons vécu, eh bien, ce sont des recherches avec des numéros qui avaient été mis en place, numéro vert, numéro de la cellule interministérielle d'aide aux victimes qui se déclenche à ce moment-là. Mais en fait, ces numéros, soit sonnaient dans le vide pendant de longs moments, soit les personnes à qui nous avions affaire étaient dans l'incapacité de nous donner les moindres informations utiles, soit, et ça nous a frappé, nous tombions sur la musique de la garde républicaine, nous jouons un morceau dont j'ai plus exactement le souvenir, mais un morceau évidemment martial, et c'était un peu inadapté. Enfin, autant de petits détails, d'anecdotes qui aujourd'hui pourraient paraître drôles et qui étaient insupportables au moment où nous les avons vécues.
Et donc, vous avez été amené à aller chercher votre fils dans les différents hôpitaux en région parisienne et à Paris.
Alors effectivement, la première chose que nous avions, que nous demandions lorsque nous avions la chance d'avoir un interlocuteur au bout du fil, c'était « mais fournissez-nous la liste des hôpitaux vers lesquels ont été dirigées les victimes pour qu'au moins nous puissions aller ou nous puissions téléphoner à ces hôpitaux pour obtenir des renseignements ». La réponse qui nous était faite alors, c'est que la liste des hôpitaux vers lesquels avaient été dirigées les victimes n'existait pas. Ça me paraissait complètement lunaire. On m'aurait dit que on ne pouvait pas me communiquer la liste de ces hôpitaux pour des raisons de sécurité qui, alors, m'auraient paru contestables, mais qui aujourd'hui me paraîtraient évidentes. J'aurais compris. Mais qu'on me dise que la liste n'existait pas, ça me paraissait tout à fait incompréhensible et inacceptable. Et par conséquent, on nous disait, vous pouvez vous adresser à l'accueil des différents hôpitaux et demander si ces hôpitaux ont des nouvelles de votre enfant. Et donc, nous avons circonscrit un certain nombre d'hôpitaux et on a décidé d'aller tirer les sonnettes et d'aller à l'accueil. Et c'est comme ça qu'on est allé à Georges Pompidou d'abord et puis à l'hôpital Percy de Clamart ensuite. À l'hôpital Percy de Clamart, il était midi le samedi et on nous a dit que Thomas n'était pas là, ni vivant ni mort. En tout cas, on nous a dit qu'il n'était pas là et il a fallu attendre le lendemain, dimanche, 14h, pour qu'on nous apprenne qu'en réalité il était bien à l'hôpital Percy de Clamart lorsque nous y sommes passés et qu'il y était décédé depuis 4h du matin, le samedi.
Moi, je suis donc Chantal Duperron, donc je suis médecin de santé publique et Thomas était mon troisième garçon.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Thomas ?
Oh ben, c'est difficile. Ouais, Thomas avait eu des problèmes de santé importants. Et moi, j'étais à la fois, bien évidemment, sa mère, mais aussi son médecin. Et Thomas, toutes les démarches qu'on a pu faire, toutes les interventions qu'il a faites, j'étais avec lui. Et donc, comment vous dire, c'était un jeune homme charmant, gentil, et qui justement avait dû dépasser des difficultés importantes, difficiles, douloureuses. Et donc, un jeune homme très courageux.
Qu'est-ce qui vous a permis de continuer à vivre après ce drame, cet événement?
Je sais pas. C'est comment les gens autour de nous disent « vous êtes courageux », c'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez continuer à vivre. Moi, je dirais que c'est jamais plus comme avant. Il y a un avant et un après. Et avec un manque, je dirais moi, qu'il est peut-être plus important maintenant qu'il ne l'était dans les mois qu'on suivit. Là, on est plus dans une, comment dire, un constat qu'on ne le reverra jamais, alors qu'on l'a attendu pendant longtemps.
C'est-à-dire que 3 ans après, l'absence est encore plus présente que le juste après, voilà, où il fallait gérer plein de choses.
Voilà, gérer plein de choses, et puis si vous voulez, la violence, la brutalité des choses font que une espèce d'irréalité, je ne sais pas comment dire, ça paraît très, très bête, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire quand les gens vous disent c'est un cauchemar, c'est vraiment ça. Quand vous retrouvez un institut médico-légal, vous dites mais qu'est-ce que je fais là, enfin, vous avez l'impression que vous ne connectez pas vos hémisphères cérébraux, là, qu'il y a quelque chose qui manque, enfin, c'est très compliqué à expliquer. Et puis après, donc oui, vous êtes pris dans des formalités, je dirais, administratives, d'obsèques, de succession, parce qu'il a fallu régler la succession de Thomas. Donc, voilà. Je dirais qu'on peut être heureux, on est heureux à certains moments, mais on a toujours l'impression que c'est de toute façon plus comme avant. Noël, là, on va repasser Noël ensemble avec tous nos enfants, nos petits-enfants, tous les 2 ans, on est tous réunis. C'est à la fois un grand bonheur, mais en même temps, il y a toujours un moment où il y en a un qui s'écroule, parce que c'est à la fois des moments de grand bonheur et des moments de...
Le manque,
il manque quelqu'un, et il manquera toujours. Et en même temps, bon, ben, c'est... qu'on continue de... Ouais, pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc, on en parle comme mes petits-enfants ou encore cet été, quand Zacharie, notre petit-fils du midi, me donne un dessin et me dit, c'est pour Thomas. Je lui dis, mais mon grand, qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, si, on va le mettre là, c'est pour Thomas. Lui, c'est qu'on pense à lui.
Et 3 ans après, cette douleur, elle ne s'apaise pas avec le temps ?
Ben moi, en tout cas, moi, non. Moi, j'ai pas l'impression. Ça prend peut-être d'autres formes, c'est moins... Peut-être qu'on s'écroule moins à pleurer, ou vous voyez, qu'on est moins... Oui, une espèce de chute complète du psychisme, mais moi, j'ai l'impression que la douleur, elle est là en permanence. Et par moments même, bon, ça le fait à Philippe aussi, hein. Par moments, voilà, ça déborde.
Denis Péchanski est directeur de recherche au CNRS. Cet historien est l'un des responsables scientifiques du programme 13 novembre. 1000 personnes vont être interrogées à 4 reprises pendant 10 ans pour évaluer l'impact du traumatisme lié aux attentats de Paris et Saint-Denis. Parmi les personnes suivies, on compte de nombreuses familles endeuillées. Ces familles endeuillées, vous les avez donc rencontrées à 2 reprises. Il y a eu 2 suites, 2 phases d'entretien pour le moment. Il y en aura donc 2 autres après. Est-ce qu'il y a une évolution, un cheminement depuis 3 ans ?
Il y a toujours une évolution, un cheminement. D'abord, attention, parce que voilà, on se fonde sur d'abord un groupe de volontaires. Hein, donc ceux qui n'ont pas souhaité venir ne sont pas venus. On n'a pas travaillé sur des listes. Donc déjà, les personnes qui sont venues ont décidé de venir. Alors ça ne voulait pas dire en 2016 qu'elles allaient bien, je peux vous dire. Globalement, c'était compliqué, mais elles avaient décidé quand même de venir. Et sans doute, quelque chose se jouait dans un changement de statut. De victimes, que ce soit les survivants ou donc les parents endeuillés ou familles endeuillées, elles prenaient un statut d'acteurs de leur propre vie. Elles avaient décidé de venir pour témoigner, pour participer... en quelque sorte, la patrimonialisation de la mémoire des attentats du 13 novembre. Comme souvent, ces personnes nous ont dit, bon, c'est pas pour moi, c'est important, mais si ça peut servir, puisque vous faites une démarche scientifique, une recherche, ben je vais essayer de vous aider. Voilà. C'est ça qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2018? Est-ce que ça va mieux? Je peux pas vous dire. Parce que c'est pas, on n'a pas encore de résultats qui me permettent de dire, oui, l'évolution est positive ou négative. Je peux pas encore vous dire, disons que globalement, la douleur est toujours là, bien sûr. Mais tout l'objectif de, mais là, c'est pas notre rôle, mais l'objectif de toute thérapie, c'est face à une telle situation, c'est de faire en sorte que ça soit douloureux, mais que ça soit dans le passé. C'est le principe du trouble de stress post-traumatique, le contre-principe en quelque sorte. Le trouble de stress post-traumatique, c'est la présence du passé dans le présent comme présent. C'est-à-dire que l'événement vous envahit complètement. Le passé s'impose dans le présent comme présent, il vous envahit complètement. Et toutes les thérapies, et encore une fois, je ne parle pas de ce qu'on fait, nous on a une démarche scientifique sur cette question-là, et on n'a pas d'objectif thérapeutique, même si j'imagine qu'il doit y avoir un effet, évidemment, sur les personnes, mais pour ceux qui développent des thérapies, il s'agit de renvoyer toujours dans le passé, ce qui envahit le présent. Il ne s'agit pas de l'oublier, on n'oublie jamais. Mais il s'agit de le renvoyer dans le passé pour le mettre en quelque sorte à distance. Évidemment, l'événement reste douloureux, mais il est mis à distance. Et donc, il ne va plus envahir votre espace du présent.
Parmi les victimes du Bataclan, Lola, 28 ans. Cette éditrice est décrite par son père comme une jeune fille dynamique et dans son époque. Depuis la disparition de sa fille, Georges Saline tente de donner du sens à l'absurde.
Très honnêtement, moi je n'ai pas éprouvé, c'est pas la colère qui a été mon sentiment dominant, ça a été j'ai été abasourdi, voilà, abasourdi, extrêmement, une immense tristesse, l'impression que le monde s'écroule et... De toute manière, pour moi, ma vie a été coupée en deux à ce moment-là, il y a avant et après. Mais non, ce n'est pas la colère qui a dominé, ça a été le sentiment de l'absurde de ce massacre qui, pour moi, n'a servi à rien ni à personne. Et tout de suite, la volonté de comprendre comment on pouvait éviter que ça se reproduise.
Alors comment éviter que ça se reproduise ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par différents acteurs selon la place qu'ils occupent. Hein. Je pense qu'il y a un travail policier, militaire, du renseignement qui doit être fait. Et je pense que sur ce plan-là, on a fait quelques progrès depuis 2015. Mais il y a aussi un énorme travail de prévention qui à mon avis, est insuffisamment conduit, y compris de prévention qu'on appelle primaire, vraiment, en s'adressant à des jeunes bien avant qu'il puisse y avoir des dérives ou des dérapages ou de l'embrigadement ou de la violence. Et moi, j'essaye de contribuer à ce travail, notamment en me rendant dans des établissements scolaires, par exemple.
Qu'est-ce que vous faites dans ces établissements scolaires ?
Je raconte mon histoire, je témoigne, en fait. Je pense qu'il est très important de témoigner à la première personne, parce que en matière d'actualité, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est souvent la forêt qui cache l'arbre. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit 130 morts ici, 500 morts là, c'est une statistique, ça ne parle pas. Lorsque je parle de ma fille, de ma famille, mon auditoire visualise quelqu'un, un être humain. Et donc, c'est à travers cette histoire qu'on peut solliciter l'émotion, et de l'émotion, on peut passer à l'intelligence des choses. Et je m'adresse finalement prioritairement à deux catégories de jeunes. D'une part, ceux qui peuvent être tentés ou qui pourraient être recrutés par l'islamisme, puisque c'est la forme de violence extrémiste à laquelle nous avons affaire actuellement. En leur montrant voilà, que je suis un être humain, que ma fille c'était un être humain merveilleux et qu'il est absolument abject et inadmissible de faire des choses comme ceci au nom de la religion. Et je me suis un peu formé à ces questions et je peux discuter des questions religieuses, y compris de l'islam, avec un musulman. Et d'autre part, je m'adresse aussi à des jeunes qui pourraient être tentés par ou influencés par une idéologie raciste ou qui pourraient rejeter les autres. Parce que je pense que ce qui menace... le moteur du terrorisme, c'est effectivement les phénomènes d'incompréhension mutuelle et de séparation et d'incapacité de communiquer les uns avec les autres. Et donc, c'est important aussi de parler à ces jeunes-là en leur disant, écoutez, moi qui ai subi quelque chose de terrible, je suis capable de tendre la main, alors vous, il n'y a pas de raison que vous n'en soyez pas capable aussi.
Vous avez été surpris, parfois décontenancé par certaines réactions de ces jeunes à qui vous parlez ?
Ni surpris, ni décontenancé, mais il faut savoir que le dialogue peut quelquefois être compliqué. Par exemple, on peut avoir une difficulté à se mettre d'accord sur la liberté d'expression versus le blasphème, si vous voulez. Ça, c'est un sujet qui revient souvent, beaucoup plus à propos des attentats de janvier, bien sûr, 2015, que de ceux de novembre. Mais voilà, c'est faut discuter de tout.
Dans votre cas, en fait, on est face à un drame qui est en lien avec l'histoire nationale, l'histoire d'un pays. Comment est-ce qu'on gère les deux, en fait ? Parce qu'à un moment, les deux se rejoignent, mais en même temps, vous avez votre douleur à vous, qui est différente de celle que traverse un pays.
Oui, alors, je ne sais pas si ce que je vais dire a une valeur universelle. Moi, je peux vous dire comment je le ressens, moi. Le fait que cet événement ait été un événement national et effectivement s'inscrive dans un contexte historique, ça a été plutôt pour moi un soutien, parce que j'ai eu l'impression de partager mon drame avec la France entière, voire le monde entier. Je dis pas que ça ait plus de sens, mais oui, l'intérêt, l'existence d'une mémoire collective autour de cet événement... Pour moi, c'est une forme de réconfort.
Ce réconfort évoqué par Georges Salines semble inaccessible pour certaines familles endeuillées. Nathalie avait 31 ans, elle était régisseuse lumière au Bataclan. Depuis son assassinat, son père Patrick Jardin est rongé par le chagrin et la colère.
On ne répond pas au Kalachnikov qui mitraille, au camion qui écrase, au couteau qui égorge. Par des bougies, des chants, des nounours et des fleurs. Je pense que maintenant, le temps est à la révolte et à la vengeance.
Vous êtes un homme en colère. 3 ans après, c'est une colère qui ne s'apaise pas ?
Non. Non, parce que les gens pensaient, m'ont souvent dit, mais tu verras avec le temps, tu t'en remettras. Mais c'est absolument faux, parce que plus le temps passe... plus le temps qui me sépare de ma fille est important. Et ça, c'est de plus en plus difficile à vivre. Donc non, ma colère ne retombera jamais.
Un homme qui est également dans le deuil comme vous a écrit un livre, Antoine Liris, Vous n'aurez pas ma haine.
Bah écoutez, il a bien de la chance parce que comme ça, en n'ayant pas de haine, il achète un peu sa tranquillité morale. Moi, j'aurais tendance à dire, vous aurez éternellement ma haine. Alors, je ne connais pas Monsieur Liris. Je n'ai pas lu son livre. Il faudra que je le fasse un jour. Mais je sais, moi, pertinemment, que je ne pourrai jamais pardonner. D'abord parce que pour que je pardonne, il faudra encore que quelqu'un me demande pardon. Ce qui n'est pas le cas, bien au contraire. Les islamistes ne demandent jamais pardon pour ce qu'ils ont commis. Et les hommes politiques ne demandent jamais pardon pour les erreurs qu'ils ont commises. Donc je crois que ma haine, je l'aurai jusqu'au bout.
Mais est-ce que la mort de votre fille a changé votre vision de la politique, votre vision de la France et votre vision de ce qu'on appelle le vivre ensemble ?
Oui, je me suis rendu compte dans quel état de déliquescence était mon pays. Et ça m'attriste énormément. Je me suis rendu compte que, en fait, nos services secrets sont complètement obsolètes. Je me suis rendu compte que notre armée est complètement démunie. Et je me suis rendu compte de la couardise et du manque de courage des responsables politiques, chose que j'avais pas mesurée précédemment, puisque moi, je faisais pas plus de politique qu'un autre. J'allais voter à chaque fois qu'il y avait une échéance politique. J'avais mes idées, mais je ne me rendais pas compte à quel point ces gens pouvaient être, je dirais, coupés de la réalité. Et ayant peur de la réalité et au moins de témoigner de la réalité.
Cette haine dont vous nous avez parlé à propos des islamistes, est-ce qu'il n'y a pas eu envie chez vous un moment de manifester cette haine dont vous parlez?
Vous savez, quand vous êtes papa et que vous venez de perdre votre enfant, bien sûr qu'on a envie de prendre aussi une kalachnikov et d'entrer dans une mosquée et de leur faire la même chose, bien évidemment. Enfin, je pense que tout papa normalement constitué, il peut pas nier qu'il n'a pas eu l'idée de le faire. Hein. Je l'ai pas fait parce que j'ai peut-être repris pied suffisamment tôt, mais je peux pas vous dire que, même si ça choque aussi, que j'ai pas eu l'idée de le faire. Hein. C'est pas vrai.
Et là, ça s'est apaisé, cette idée-là, elle revient ou pas?
Parfois, mais il me reste encore un fils, j'ai une petite fille. Si je faisais ça, quel avenir je leur laisse? Je ne peux pas le faire.
Vous êtes un homme révolté et il y a aussi beaucoup de tristesse chez vous, beaucoup de...
Ma tristesse, elle est incommensurable. Hein. Tous les jours, je pense à ma fille. Je me lève le matin, je pense à ma fille. La nuit, comme je n'arrive pas facilement à trouver le sommeil, je pense à elle également. Ce sera à vie comme ça. Hein. C'est quand même la chair de ma chair. C'est moi qui ai coupé le cordon ombilical. C'est moi qui l'ai appris à parler, à marcher, à nager. Non, je peux pas tirer un trait là-dessus. C'est impossible. J'ai besoin d'entendre sa voix par moment. Donc la seule façon pour moi, c'était de continuer à payer son abonnement pour entendre le message vocal d'accueil lorsqu'on l'appelle. J'ai besoin de ça de temps en temps, de l'entendre. C'est comme ça. Quand je suis dans ma voiture tout seul, je pense à elle, je dis tiens, je vais l'appeler pour l'écouter. J'aurais toujours besoin d'entendre sa voix et... Non, je peux pas me résoudre à ne plus l'entendre. Quoi.
Est-ce que chez ces personnes endeuillées, ce drame a changé le regard qu'elles avaient sur la société?
On peut l'imaginer. Hein.
Denis Péchanski, chercheur au CNRS.
On sent bien dans les entretiens que ça a des conséquences, parce que les milieux qui sont directement concernés, là je pense aux survivants, mais aussi aux parents, c'est souvent des catégories socio-professionnelles, moyennes supérieures ou supérieures, bagage culturel important, un positionnement politique qui, en moyenne, est, disons, plus à gauche que la moyenne nationale. C'est un milieu urbain avec une ouverture politique et culturelle qui, évidemment, n'est pas représentative de la moyenne nationale. Et en même temps, on sent bien que là, il y a quelque chose qui s'est fracturé. Parce qu'ils ont été... ces personnes confrontées à cette horreur, une horreur qui est une attaque terroriste organisée.
Au nom de l'islam?
Au nom de l'islam. Alors après, il y a tout un travail qui est fait. On dit souvent, attention, faut pas faire d'amalgame. Faut pas faire d'amalgame, mais il y a un problème. Voilà. Donc, je pense que ça fait bouger les lignes. Après, je suis pas là pour faire une analyse... de sciences politiques, hein, de l'oppositionnement politique, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui a bougé au tréfonds de leur rapport à la société.
Quelque chose a bougé, c'est-à-dire une espèce de désillusion, comment appeler cela?
Une vision sans doute un peu moins, je dirais pas angélique, parce que là, je veux pas dire que la précédente était bisounours, hein, c'est pas le problème. C'était aussi valable les unes que les autres, c'est pas le problème, mais une plus grande méfiance. Voilà. On est dans la méfiance, dans des milieux qui n'étaient pas habitués à avoir de la méfiance, et ça les interroge. Mais encore une fois, faut faire très très attention à pas faire de... à tirer de conclusions trop systématiques, voilà. Mais clairement, le travail d'ailleurs de guérison passe par une tentative de revenir à une sorte d'équilibre qu'on avait antérieurement, y compris politiquement.
On voit parmi les proches des victimes des réactions très différentes. Il y en a qui s'investissent dans ce qu'on appelle communément le vivre ensemble, la tolérance, et puis d'autres qui se renferment dans des idées ultra-conservatrices, extrémistes. D'après ce que j'ai vu, c'est plutôt minoritaire, mais il y a ces deux réactions qui existent. Qu'est-ce qui fait qu'on se renferme ou qu'au contraire on va vers l'autre quand on a vécu ce même drame? Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui jouent?
Bon, je pense que le premier facteur, c'est l'héritage, parce que il y en a qui sont sur des positions extrêmement radicales, mais enfin, j'étais quand même très, très marqué à droite avant. Donc, c'est une sorte de continuité, on n'a pas jugé, c'est comme ça, voilà. Et donc, il est évident que ce qui s'est passé n'a pu que renforcer cette réticence face à l'autre. Donc ça pour moi, c'est le facteur décisif, c'est le bagage, l'héritage, ce qu'on a en tête jusque-là. L'horizon d'attente, ce qu'on avait comme vision, comme objectif. Bon. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de perte de repères pour l'avenir. Voilà. D'un pessimisme plus ou moins avoué, mais qui, y compris d'ailleurs pour les personnes qui s'inscrivent dans la continuité politique d'avant, qui était une critique sociale, qu'on dira de gauche, affirmée, une sorte de renforcement, mais qui est accru par l'événement qu'ils ou elles ont vécu. Et cette radicalisation n'est pas née que de la critique sociale. Voilà. Elle est aussi le fruit de l'épreuve qui a été traversée. Et en même temps, il y a des reconstructions qui se font, et des reconstructions, des tentatives de guérison, qui passent par une volonté de s'ouvrir davantage à l'autre.
Bonsoir madame.
Bonjour monsieur. Je suis Dominique Calmoès. Je suis la mère de Victor Muñoz, qui a été assassiné à la Belle Équipe le 13 novembre 2015. Je suis aussi élue à la mairie du 11e arrondissement. J'étais professeure d'histoire et je travaille depuis avril 2016. Au rectorat de Paris, en charge de la réserve citoyenne. Et je suis aussi mère d'un garçon de 31 ans, Édouard, qui a perdu son petit frère et qui en est très malheureux. Victor était un jeune homme de 24 ans, qui était toujours tourné vers l'avenir. Victor qui rêvait d'aller sur Mars, Victor qui était à l'affût de toutes les nouvelles technologies, Victor qui venait terminé ses études de commerce et qui avait déjà créé une petite start-up. Victor qui vibrait à chaque match de foot, c'est un fan de foot, fan du Barça. Il aurait évidemment vibré à la Coupe du Monde de foot en 2018. Il aurait vibré pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, plein de projets, plein d'avenir, beau garçon, intelligent, brillant, ayant une compagne aussi belle et blonde qu'il était beau et brun. Et la veille des attentats, il commençait à parler de mariage.
Après la mort de votre fils, vous décidez d'arrêter l'enseignement. Pour quelle raison ?
Je ne décide pas, là encore, de manière rationnelle. J'étais dans un état second, ne mangeant plus et ne dormant plus que très peu, donc c'était impossible de reprendre le travail, ça c'était une certitude. Et puis quand petit à petit, là aussi, la raison s'est de nouveau emparée de mon esprit, je me suis rendu compte que je n'étais plus capable d'enseigner. D'abord, je n'avais plus les capacités physiques et morale d'enseigner. Et d'autre part, c'est un métier que j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé la relation aux élèves et je ne voulais pas imposer aux élèves une relation avec un professeur qui se mettait à les détester parce qu'ils étaient jeunes, gays, en pleine santé, alors que mon fils était mort. Et que ça, c'était une situation impossible à supporter par moi, mais que je ne voulais pas non plus leur faire subir parce que c'est un métier que j'aime trop. J'ai vu trop souvent des collègues continuer à enseigner alors qu'ils n'étaient plus en état de le faire, et ça donne des résultats en général désastreux pour tout le monde. Donc ça, ça c'était au-dessus de mes forces, effectivement.
C'est-à-dire que leur jeunesse vous rappelait trop votre fils ?
Oui, absolument. J'ai suivi mes fils, je suivais ce qu'ils faisaient, mais moi j'ai toujours enseigné dans le secondaire. Mais à partir du moment où ils ont été en collège puis en lycée, forcément, je me suis toujours identifiée. Et pour tout vous dire, il y a même un de mes anciens élèves qui est ensuite devenu surveillant au lycée Paul Valéry où j'enseignais, qui ressemblait énormément à mon fils, avec qui j'avais de très très bonnes relations. Je ne peux pas le voir sans pleurer parce que, voilà, parce qu'il me rappelle mon fils. C'est parce que, effectivement, ces élèves adolescents ou jeunes adultes en pleine santé et ayant tout l'avenir devant eux, ça me faisait trop mal. Ça me faisait trop mal. De même que quand je passe à côté d'une terrasse de café où éclatent des rires de jeunes gens ou de jeunes adultes, je dois dire que c'est un poignard dans le cœur à chaque fois.
Pour les familles endeuillées du 13 novembre, 3 ans après, la reconstruction reste difficile. La persistance du traumatisme est parfois difficile à comprendre pour l'entourage. C'est ce que constate Denis Péchanski.
Le trouble de stress post-traumatique, sa caractéristique, c'est donc d'être un choc traumatique qui dépasse un temps normal, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est plus d'un mois, voilà, et souvent ça dure des mois, voire des années. Et cette situation-là n'est pas audible et compréhensible par l'entourage. On ne comprend pas. Les parents sont complètement envahis par ce drame-là, par cette douleur. Elles ressassent. Ce qui est la caractéristique du trouble de stress post-traumatique. Elle ressasse toujours la même histoire. On leur dit, bon, on vient les voir. Au début, tout le temps, parce qu'on est évidemment dans la compassion. Puis on leur dit, mais tu veux pas t'arrêter un peu? Tu veux pas penser à autre chose? Ben, je veux bien, mais je peux pas. Bon, alors on vient les voir un peu moins souvent. Et ainsi de suite. Bon. Ou bien à l'intérieur de l'espace familial, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que s'ils ont vécu la même chose, ils peuvent comprendre ça. Mais ceux qui n'ont pas vécu ça, comment voulez-vous qu'ils comprennent cette singularité si radicale de ce trouble de stress post-traumatique qui s'enquiste, qui s'incruste et qui fait que ça dure et que justement on va répéter les mêmes choses en boucle. Alors, vous savez, effectivement, au bout de quelques mois, souvent, ils sont un peu seuls, hein. Ou bien alors confrontés à un environnement qui leur dit « arrête, arrête quoi, arrête » parce que non seulement tu te fais du mal, mais en plus tu fais du mal à notre enfant, à ton frère, à ta sœur, je sais pas, à tes parents.
Là vous parlez des parents, hein, des parents
endeuillés. Oui, mais les parents endeuillés c'est la même chose, voilà. Les parents peuvent s'enfermer entre eux, souvent dans le couple, entre eux, ils vont se renfermer parce qu'aussi ils ne sont plus entendus. C'est extrêmement compliqué, c'est une pathologie qu'il faut connaître pour comprendre la difficulté singulière auxquelles ces parents endeuillés ou ces maris ou femmes endeuillées sont confrontés.
Et le risque, c'est l'isolement.
Oui, et une sorte de polarisation autour de la personne disparue, bien sûr. Parce qu'on a cette référence qui reste là, je pense surtout aux parents, ce qu'on peut espérer. Bien sûr, pour les veufs ou les veuves, qu'ils sont jeunes, voilà, qu'à terme, ils vont se reconstruire, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Ce sera forcément très singulier, très spécifique, mais on voit bien qu'il y a des choses qui se passent là. Mais pour des parents, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, je pense que c'est
C'est là où la société doit comprendre ça, où l'environnement doit comprendre ça. Parce que s'ils ne comprennent pas ce que c'est que cette pathologie, ils vont les laisser s'enfermer.
Pour ces familles endeuillées, les commémorations sont un moment important. Elles marquent le soutien de la société, le lien entre mémoire individuelle et mémoire collective. Mardi prochain, Emmanuel Macron sera pourtant absent à l'hommage aux victimes du 13 novembre, contrairement à l'année dernière.
Les familles du 13 novembre, comment vivre avec l'absence, un reportage d'Antoine Maretz avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
En studio avec nous, Guillaume Denoît de Saint-Marc, directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur le début du reportage d'Antoine. Mmh. À entendre Philippe Duperron, on a l'impression qu'il n'y avait aucune centralisation des recherches au début, pas de système d'orientation pour les familles. Avec le recul, est-ce que c'était une fatalité face à un drame d'une telle ampleur ou est-ce qu'il y a eu vraiment des dysfonctionnements importants ?
Il y a eu effectivement des dysfonctionnements importants et je crois que justement Philippe l'explique très bien et de nombreuses familles ont vécu la même chose. Il y a eu une prise de conscience à ce moment-là d'un certain nombre de dispositions qu'il fallait mettre en place. Je dirais qu'on était dans de l'autisme. On refusait de voir qu'un drame de ce type-là pouvait arriver. Sur le plan sécuritaire, sur le plan, je dirais, policier, on imaginait des stratégies de ce type-là, notamment après Mumbai, après un certain nombre d'affaires de ce type-là, après Londres, après Madrid. Donc voilà, on avait quand même des références et on nous parlait dans les schémas qui nous étaient présentés, notamment au niveau de la Commission européenne, de ce type de drame. Mais il n'y avait pas de prise de conscience réelle du fait que ça pouvait arriver.
Et qu'il faudrait dans ces cas-là gérer la situation.
Et dans ce cas-là qu'il faudrait gérer la situation et qu'il fallait entre autres que les systèmes soient interconnectés. Ce qui est maintenant le cas, semble-t-il, puisque depuis quelques jours on nous a annoncé que les systèmes d'identification des victimes, de tout le suivi entre les différents services de secours et les services de police et les services de crise sont maintenant interconnectés sous le travail de la déléguée interministérielle de l'aide aux victimes et des travaux entamés par Juliette Méadel avant ça.
Qui avait été secrétaire d'État.
Qui était secrétaire d'État. Je crois que là, il y a eu vraiment une prise de conscience du fait que ça pouvait se reproduire sous forme d'attentat ou de catastrophe et qu'il fallait vraiment améliorer l'ensemble du système. Mais quelle douleur à ce moment-là pour les victimes. C'est incompréhensible. Il y a eu des dysfonctionnements à tous les niveaux. Ce qui est normal d'une certaine manière puisqu'on gère le chaos, mais qui n'est pas normal dans le sens où ce chaos était prévisible, était prévu dans un certain nombre de schémas.
Il y a quand même certaines choses qui auraient pu être évitées aux familles.
Il y a des choses qui auraient pu être évitées.
Qui ont alimenté leur traumatisme aussi.
Ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé. La façon dont les victimes ont appris les deuils, souvent de façon subreptice, ça peut être des fois par des médias. On a eu d'autres cas où c'était les médias qui l'apprenaient, qui informaient les familles.
Mais au-delà de la question de la centralisation, il y a ce père qui est à la recherche de son fils, 48 heures de recherche, il va à l'hôpital Percy la veille, donc le samedi, la veille de l'annonce de sa mort, et il va à l'hôpital de Percy et il demande si son fils s'y trouve, mort ou vivant. Et on lui dit non, il y est
pas. Mais la personne qui lui a répondu ça était sincère. Le problème, c'est que même au sein de Percy, il n'y avait pas d'interconnexion entre la morgue et les différents services. Donc c'était le foutoir, pour parler. C'était le chaos. Et surtout, il n'y avait aucun moyen. Il y avait énormément de fichiers différents. On parlait de différents numéros de téléphone. C'est inconcevable qu'il y ait différents numéros de téléphone. Il faut qu'il n'y en ait qu'un. Et qui est une centralisation à un point unique de l'ensemble des informations liées à l'ensemble des victimes, à l'ensemble des familles, qui maintenant est mis en place.
C'est-à-dire vous disiez qu'il y a quand même des leçons qui ont été tirées.
Oui.
Est-ce qu'elles ont déjà profité aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice ?
Exactement. Elles ont profité aux victimes du 14 juillet. Là, il y a eu d'autres problèmes différents qui se sont soulevés, qui ont permis encore d'améliorer le processus. Et ça a resservi encore pour d'autres attentats ensuite, notamment à l'étranger, à Barcelone où il y a beaucoup de Français, et aussi à Toulouse, enfin à Trèbes, Montauban. Voilà, à petite échelle, mais voilà, il y a eu. Et à chaque nouvelle expérience, en fait, le système est encore amélioré, est encore affiné, avec un travail en amont de préparation, avec cette intercommunalité des différents fichiers, je crois que ça, c'est important. Et puis aussi en tenant compte de tous les intervenants possibles, qu'ils soient, fassent partie soit de l'État, soit des associations de victimes et d'aide aux victimes, qui peuvent être embrigadés, entre guillemets, dans ce système pendant la phase de crise, pour ensuite, dès que la phase de crise passe, pouvoir continuer ce travail de long terme.
C'est quand même très compliqué, puisque vous évoquiez plusieurs types d'attentats différents. Il y a des configurations quand même très différentes. On peut quand même mettre en place des dispositifs applicables partout ?
On peut arriver à ce que les gens de différentes cultures et de différents métiers arrivent à travailler ensemble. Mais ça ne peut pas se faire pendant la crise. Il faut que ça se fasse avant. Donc il faut que ce soit préparé. Voilà. Et il y a des mises en place des comités locaux d'aide aux victimes dans chaque département. Ils sont en train de s'installer tout en ce moment. Chaque département installe son nouveau CLAV, qui est présidé à la fois par le préfet et le procureur de la République dans chaque département, dans lequel les associations sont impliquées. Donc on apprend à se connaître avant, on prévoit des schémas types, forcément qui ne seront jamais adaptés à la situation parce qu'elle n'est jamais prévisible, mais qui permettent, à partir d'un schéma type, de l'adapter à la réalité de ce qui se passe. Et avec des phases, des phasages, avec un centre d'accueil des familles, puisque ce qui a manqué, c'est l'endroit où vont les familles pour se renseigner. Donc il y a un seul endroit où les gens peuvent se déplacer pour avoir toute la formation, mais indépendamment des secours. Il y a des services qui s'occupent des blessés, qui s'occupent des tués, il y a des gens qui s'occupent de sécuriser la zone, il y a une partie qui gère les médias, et puis il y a notre équipe qui gère les familles qui cherchent des personnes qui ont disparu, pas d'informations. Et c'est là qu'il faut s'en occuper.
Alors, on est maintenant 3 ans plus tard. On entend que la douleur des familles reste extrêmement présente. On a entendu Patrick Jardin qui est tenté par la loi du talion. Vous entendez souvent des réactions comme celle-là ?
Elles sont rares, mais elles sont compréhensibles aussi. C'est des gens qui sont vraiment dans une grande souffrance, qui n'arrivent pas à diriger leur colère dans une bonne énergie. C'est pas évident, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de recul, d'arriver à sortir de la haine. Je dirais que sa colère a basculé dans la haine. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt qu'elle bascule dans quelque chose de plus positif. J'aimerais beaucoup le rencontrer, ce monsieur Jardin, pour pouvoir travailler avec lui, voir avec lui comment orienter cette colère, parce qu'il la dirige dans une voie sans issue.
Mais alors, justement, vous dites, j'aimerais beaucoup le rencontrer. L'accompagnement psychologique, il est systématiquement proposé aux victimes, mais il n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui dit, ça ne sert à rien, j'en veux pas, et qui s'enferme dans son chagrin ou dans sa colère, on le laisse à son sort ?
On essaye constamment de toquer à la porte, de dire on est là, on existe. Ce qu'on essaye de faire, nous, à l'association, c'est de regrouper des victimes de différents attentats qui ont différentes attitude, justement, par rapport à ça, dans des stages thérapeutiques qui durent une semaine, qui s'appellent Projet Phoenix, et qui permettent d'échanger des expériences, de parler, et dans lesquelles on peut retrouver, justement, des personnes avec des attitudes complètement différentes par rapport à ce qui s'est passé. Et le fait d'échanger avec des pairs, peut-être avec des gens, d'ailleurs, qui ont vécu un autre attentat à une autre époque, ou des gens d'une autre culture. On a souvent des... il nous arrive très souvent dans ces stages de faire venir des victimes musulmanes du Maghreb ou du Liban. Ça permet de mieux comprendre l'autre, ça permet en tout cas de comparer son histoire à celle de l'autre.
Mais pour que cet échange soit possible, il faut déjà avoir entrouvert la porte et ça n'est pas le cas de tous.
Tout à fait. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à venir nous voir. On est dans la bienveillance, on est dans l'écoute. Mais notre limite est que on peut pas forcer les gens à venir nous voir.
Et alors donc le deuil, c'est une affaire intime, hein, chacun le vit différemment. Il y a ceux pour qui le deuil prend toute la place et empêche de s'ouvrir aux autres. Il y a ceux qui, à l'inverse, ont un besoin d'action, qui vont écrire, qui vont témoigner, on entendait Georges Salines, ou qui créent ou s'impliquent dans une association. C'est une façon de canaliser la douleur, de sortir de soi sans nier son deuil.
Alors, je dirais que ce qui se passe surtout après l'attentat, c'est que finalement, on a été instrumentalisé pour frapper la société. C'est-à-dire qu'on est, on était l'outil pour frapper la société, on est déshumanisé et on perd le contrôle de notre vie. Et ce qu'il faut, c'est arriver à reprendre la maîtrise de sa vie, reprendre le contrôle et être dans l'action est quelque chose de très positif. Ça prend plusieurs formes, effectivement. Georges Salines intervient, entre autres, avec l'AEVT, hein, dans notre association dans les lycées, et témoigne. Et ça permet de travailler sur la position victimaire, sur comment on en sort, qu'est-ce qui fait société, etc. Et il est lumineux quand il en parle. On en connaît d'autres qui, je pense aux parents de Marie et Mathias, qui étaient deux jeunes qui sont morts au Bataclan, dont les parents ne se connaissaient pas. Ils avaient été chacun leur enfant unique. Et les parents se sont rencontrés et ont créé l'association Marie et Mathias. C'est dans le nord de la France. Et ils collectent de l'argent avec plein de jeunes, tous les amis de leurs enfants, pour collecter de l'argent, faire des concerts et aider des jeunes dans leur projet de rentrer dans la vie active. Et ça marche. Et du coup, ils sont entourés d'autres jeunes. C'est pas leurs enfants, mais ils ont une dynamique. Et d'ailleurs, il y a un concert dimanche. Pour Marie et Mathias. Et on sent que ça les porte. C'est quelque chose qui les... Alors, ça n'empêche pas le chagrin, ça n'empêche pas le manque. Mais c'est associer, faire quelque chose, finalement, du drame qu'on a vécu. Essayer de transmettre quelque chose aux autres. Et refaire société.
Mais alors, Denis Péchanski disait, il faut, pour pouvoir se reconstruire, hein, mettre l'événement à distance dans le passé, qu'il ne soit pas dans le présent, mais dans le passé. Quand on est dans une association de victimes, qu'on brasse la peine des autres en plus de la sienne, est-ce que c'est pas difficile,
c'est très
justement,
compliqué.
D'avancer?
Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous essayons à ce que les victimes qui s'impliquent à l'AEVT, à l'Association française des victimes du terrorisme, sont des victimes qui ont déjà fait tout un cheminement avant. On est là pour les autres, mais au contraire, on essaye de pousser les nouvelles victimes à de temps en temps témoigner, mais pas à s'impliquer trop. Parce qu'il faut aussi qu'elles aient une vie à côté. Il faut qu'elles prennent justement une distance par rapport à l'événement. Et surtout qu'elles ne soient pas trop en contact avec des victimes du même attentat. Parce que là, sinon, leur histoire fait écho. Et on est dans le même phénomène que le choc post-traumatique, c'est-à-dire qu'on raconte la boucle de la même histoire. Par contre, d'ouvrir cette boucle en rencontrant une victime d'un autre attentat, à un autre endroit, à une autre époque, quelqu'un qui peut avoir une culture différente en plus. Au contraire, là, on est dans l'ouverture, on est dans la reconstruction, on recrée des ponts là où les terroristes ont essayé de cliver, de nous mettre en opposition. Finalement, on parle à l'intelligence. On parlait tout à l'heure, d'ailleurs, Georges Salines en parlait très bien, de la différence entre l'émotion et comment de l'émotion on passe à l'intelligence. Et c'est ce qu'on essaie de faire par petites touches pour amener les victimes à prendre une distance sans le déni, sans nier ce qui s'est passé, tout en gardant la mémoire de ce qui s'est passé, mais en l'incluant dans un projet qui les mène vers un futur. Et pour revenir à Patrick Jardin, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi plutôt la voie de la reconstruction, d'écouter l'autre, etc. Parce que c'est le seul choix qui a un avenir. C'est la solution la plus compliquée. Parce qu'effectivement, on a envie, dans un premier temps, on est plein de haine, on a de la colère. Et on peut très facilement basculer dans cette haine. Moi-même, à un moment, je haïssais tous les Libyens, parce que mon père est mort dans un attentat lié à la Libye. Et finalement, je suis aperçu que c'était délétère. Je me bousillais. Et finalement, je jouais le jeu du terroriste. C'est-à-dire que non seulement il avait tué mon père, mais en plus, je devenais une boule de haine. Et finalement, je me retournais contre ma propre société. L'autre choix qui est celui de comprendre, d'essayer de défaire cette haine pour orienter la colère vers quelque chose de constructif, est quelque chose qui au contraire reconstruit le lien social, m'a réinséré dans la société et m'a permis de calmer le processus. Et finalement, c'est le seul cas de l'avenir.
Mais ça demande du temps.
Ça demande une réflexion, un accompagnement, parce qu'effectivement, il n'est pas forcément naturel. Ça demande de comprendre. Il faut passer de l'émotion à l'intelligence, la réflexion.
Il y a cette difficulté, c'est que les attentats, le risque est toujours présent et chaque nouvel événement réactive le stress post-traumatique.
Tout à fait.
Et du coup, on a encore plus de mal, j'imagine, à
Tout à fait, mais en même temps, avec le temps, vous savez, moi j'ai maintenant plus de 30 ans d'expérience, puisque le premier attentat dont j'étais victime était en 81, et c'est en 89 que mon père est mort dans un deuxième attentat. Oui, c'est, on apprend à se connaître, on apprend à se protéger. C'est pour ça que dans notre association, il n'y a pas que des victimes, parce que nous sommes aussi un peu une fragilité et une force, par ailleurs. En ce qui me concerne, je sais que, qu'en général, j'ai un moment de sidération qui va durer quelques heures, je vais être dans l'action, et je vais tomber une semaine après. C'est là que je vais avoir les... Donc je le sais, et je prends rendez-vous avec mon psy une semaine après l'attentat, parce que je sais qu'à ce moment-là, ça n'ira pas, mais on apprend à se connaître et à s'écouter.
Juste une toute petite dernière question en quelques secondes. Il y a un comité qui a réfléchi à la manière de commémorer les attentats, qui a proposé la création d'un musée mémorial à Paris. C'est une bonne idée ?
Ben, je crois que de faire un endroit de réflexion pour parler au grand public de ce que c'est qu'être victime du terrorisme, de ce que c'est que le terrorisme à travers l'histoire, hein, puisqu'il y a eu toutes formes de faits de terrorisme, il y a eu extrême droite, extrême gauche, il y a eu les djihadistes, on aura peut-être un jour des extrêmes véganes. Oui, il est important de comprendre le phénomène.
Très bien, merci Guillaume Denoy de Saint-Marc. Les familles du 13 novembre, comment vivre avec l'absence? Le grand reportage de cette semaine était signé Antoine Marette, réalisation Annie Brou avec Audrey Guélil à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.